depuis maintenant plusieurs semaines, même plusieurs mois, c'est de pouvoir partager sur la prière. Personnellement, c'est... Excusez-moi. Quelqu'un qui pourrait apporter un verre d'eau, s'il vous plaît, parce que j'ai du mal à parler. C'est un élément qui m'a beaucoup aidé, on va y arriver, et qui est essentiel dans ma vie spirituelle, dans la vie avec Dieu. Et voilà, j'ai eu à cœur de pouvoir partager avec vous quelques pensées, quelques versets avec vous, et quelques témoignages aussi de ce que j'ai pu expérimenter avec le Seigneur. Voilà, j'ai demandé aux musiciens de rester, parce que après l'introduction, je voudrais qu'on fasse un petit chant, faire un petit break, et puis après on continuera. Merci Abbas, je vais peut-être attendre qu'il apporte le verre d'eau, vous entendrez mieux. J'espère que ça marche. Ouais, ça marche pas mal. Voilà, j'ai retrouvé la voix. Voilà, donc pour introduire ce message sur la prière, j'aimerais tout d'abord vous parler de passion, celle qui anime nos vies, qui nous motive et nous fait aller de l'avant. Ceux qui cherchent Dieu, ce sont les personnes passionnées, pleines de vie, passionnées pour le royaume de Dieu, qu'ils veulent voir le nom de Jésus élevé. Sans passion, notre relation avec Dieu est difficile. Et je vous parle d'expérience. Quand pour de multiples raisons, ma passion diminue, ma relation avec Dieu s'écroule. Alors je tombe très facilement dans le légalisme, la religion traditionnelle, sans vie, où je ne pense même plus à Dieu parfois. Et pour ma part, cet état vient progressivement, sans alerter. Et quelque part, je me perds. Même si je prie ou continue de prier, c'est machinal. Et je dois dire que dans cet état, j'ai besoin de l'aide de mon puissant sauveur pour me réveiller. Parfois, je me rends compte tout seul et par ma volonté, je demande pardon à Dieu et je repars de l'avant, car il est fidèle et juste pour nous pardonner. Je pense qu'il est nécessaire de se repentir lorsqu'on s'endort, car on viole le premier commandement d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force et de toute sa pensée. Il est question dans ce commandement de passion, être passionné pour Dieu, c'est ce qu'il nous demande au travers de ce commandement. C'est pour ça que je pense, à titre personnel, que quand on s'écroule, c'est bien de commencer par la repentance et de retourner à Dieu. Il y a beaucoup d'encouragement à se rappeler que Dieu est le bon berger et lorsqu'il me trouve endormi, il veut me réveiller. Par exemple, il va mettre un bon livre sur ma table de chevet pour réveiller en moi la passion. Il va utiliser un frère ou une sœur pour intercéder pour moi. Il va me parler directement. Il va rallumer la flamme de vie, mais je dois dire que lorsque la passion a diminué ou a disparu, il est plus difficile d'entendre Dieu. Une chose est sûre, elle est certaine, Jésus est le bon berger. Il va réveiller le peuple endormi. Il veut nous réveiller, pour ceux qui sont endormis, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, hein, c'est pas ça, mais je sais qu'on a fait 18 ans que je suis chrétien, on a des hauts et des bas, et des fois on s'endort. Et donc la seule chose, quand le bon berger veut nous réveiller, mais c'est aussi de l'accepter. Nous devons accepter de se faire réveiller par le Seigneur. La passion, c'est vraiment important. Quand je me suis converti, je fréquentais cette église et il y avait des doutes sur la qualité de la musique qu'on jouait à l'époque. Du moins, c'est comme ça que je comprenais. Alors, il était très souvent répété que l'important était de chanter de tout notre cœur. Et c'était vrai. L'important n'est pas l'apparence, mais ce qui sort de notre cœur, c'est ce qui va refléter notre passion. C'est l'enseignement que l'on retrouve dans Matthieu 15, verset 10. Donc c'est Jésus qui parle. Donc Jésus appela la foule à lui et dit « Écoutez-moi et comprenez bien. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais c'est ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'homme impur. » Et la suite de l'explication, du verset 15 au verset 20, donc il y a Pierre qui prit la parole, Pierre prit la parole et lui dit « Explique-nous cette parabole. » Jésus dit « Vous aussi, vous êtes encore sans intelligence. Ne comprenez-vous pas encore que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre puis est évacué dans les toilettes. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger, sans s'être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. Donc je me permets d'enrichir ce verset. Les apparences, pour reprendre juste avant la lecture de ce verset, vont finir aux toilettes. L'apparence, ça ne sert à rien. Et par complémentarité de ce verset, qui parle du côté négatif de ce qui sort de notre bouche, et qui reflète notre cœur, les bonnes pensées, la passion de Dieu, vient du cœur également, et va s'exprimer au travers de nos paroles. La parole nous dit que sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais je pense que sans passion pour Dieu et son royaume, il est impossible de lui plaire. Et je vous parle de passion pour introduire à la prière, car sans passion, je crois que la prière puisse servir à quoi que ce soit. Je sais par expérience que nous passons tous par des hauts et des bas concernant la passion pour notre Père et pour son royaume. Je ne connais pas dans quel état vous êtes venu à l'église, voilà, je ne sais pas du tout, mais ce que j'ai eu à cœur, c'est de dire, voilà, peut-être prenons quelques instants et demandons au Seigneur de réveiller la passion en nous pour son royaume, de prendre quelques minutes de prière et après on fera un chant et après on passera vraiment sur le cœur du message. Seigneur, il est vraiment difficile de venir à toi, Seigneur, sans être passionné, Seigneur. Cette passion, c'est toi qui la donnes, Seigneur. Ce n'est pas quelque chose de logique pour le monde actuel, Seigneur. Mais nous devons être passionnés pour toi, pour le nom de Jésus. Passionnés pour le royaume de Dieu, de voir la croissance de ton royaume, Seigneur. C'est des êtres sauvés, Seigneur. C'est ce que tu veux, c'est ce que tu attends. Tu veux voir la croissance spirituelle de chacun d'entre nous, Seigneur. Mais nous savons aussi, Seigneur, qu'avec le temps, cette passion peut s'endormir, Seigneur. Nous avons des exemples dans la parole, Seigneur. Nous le vivons personnellement, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, que si la passion a diminué, Seigneur, voire s'est éteinte, Seigneur, je te prie ce matin, Seigneur, de nous réveiller, de me réveiller, Seigneur, de réveiller cette passion pour toi et pour ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Je vous propose de chanter ce chant. Feu du fondeur, le j'aime 2, pour introduire justement, qui parle justement de ce qui vient de notre cœur, que tout ce qui est en nous passe au travers du feu de la parole pour nous ramener à la vérité, à ce qui est important pour lui. Si vous voulez, vous pouvez vous lever en plus, ça permet de se détendre, comme ça fait une coupure en plein milieu du message.
Je n'ai qu'un désir. sa part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir.
Merci beaucoup. Vous pouvez reprendre place. On va laisser les musiciens aussi s'installer confortablement. La prière, c'est, ça reflète notre relation avec Dieu. Et toujours en parlant de chant, il y a ce chant dont le titre est « Les cieux proclament ». Il proclame la gloire du ressuscité, celui qui est mort pour nous et qui est digne de recevoir notre louange et notre adoration. Et on voit ça dans Philippiens 2, les versets 9 à 11. Il est écrit « C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Dans nos prières, il est important de reconnaître Dieu le Fils à la position à laquelle il est. Seigneur, Seigneur de nos vies, parce que nous l'avons choisi, et donc de le répéter, de le rappeler, mais pas simplement le Seigneur de ceux qui l'ont accepté. Il est le Seigneur de l'univers, car toute autorité lui était donnée sur la terre comme au ciel. Lorsque nous nous adressons à lui, sachons à qui nous parlons. Il est vrai qu'il s'est abaissé jusqu'à nous pour nous sauver, afin de nous démontrer son amour. Mais ce n'est pas pour cela que nous devons l'abaisser dans nos prières. Par familiarité ou par manque de respect. Dans notre attitude, lorsque nous entrons dans la prière, dépend la qualité du moment que nous allons passer. Je peux illustrer ce principe. Lorsque quelqu'un vient à vous pour un moment d'échange, s'il vient avec arrogance, mépris, vous n'allez pas beaucoup l'écouter. Il n'y aura pas d'échange. Approchons-nous donc de lui avec assurance, mais également respect et reconnaissant qui il est. Et c'est ce que nous dit le verset 11 de Philippiens. Toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus est le Seigneur, c'est la gloire du Père. Avec assurance, parfois notre assurance dans la puissance de Dieu, dans la possibilité qu'il peut tout changer, qu'il peut délivrer, qu'il peut sauver, est atteinte. Parce que nous ne l'avons pas vu agir comme nous l'aurions imaginé, ou que nous sommes passés à côté, nous n'avons pas vu son intervention, ou que nous avons fait des choix non judicieux parfois. J'ai pu constater dans ces moments, parce que j'y suis passé malheureusement, qu'il est important de demander l'aide du Saint-Esprit afin qu'il nous montre la gloire du Fils. On a besoin de voir la gloire du Fils. Également, ce qui m'a souvent aidé, c'est de me remémorer les interventions passées de notre Dieu en notre faveur. Également, de prendre de la hauteur sur un moment donné, nous ne le voyons pas. Mais sur la globalité, sur plusieurs années, nous voyons son intervention, nous voyons qu'il pose les briques, les marches, qui nous permet d'aller de l'avant. Les chants ne sont pas faits uniquement pour louer Dieu, sur un moment donné, comme par exemple là au culte, on le loue, mais ils sont là aussi pour nous aider dans le quotidien. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Ce chant nous appelle à revenir en arrière, se remémorer tout ce que Dieu a fait pour nous, de ne pas l'oublier. C'est un fondement quand on passe par des moments difficiles. Approchons-nous donc avec assurance du trône de Dieu. Se remémorant le passé, on peut s'approcher de Dieu avec assurance. Le trône de Dieu est l'endroit où nous apportons, entre autres, notre louange, notre reconnaissance. À un moment de ma vie, j'ai constaté que le temps de louange dans mes prières était très court, limité. Et je dois reconnaître que j'ai dû changer. C'est certainement le Saint-Esprit qui me l'a montré. Et maintenant, de façon volontaire, j'y passe beaucoup plus de temps. Ça doit être notre volonté d'y passer du temps à l'adorer, à le contempler. Par exemple, lorsque je suis en voiture, je regarde la beauté de la création et j'en profite pour le louer pour chacun des détails de la création. C'est magnifique ce qu'il a créé. C'est un exemple. Je le loue pour sa bonté, en me remémorant son action puissante dans le passé, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Car notre Dieu est puissant, et ce n'est pas un petit Dieu que l'on met dans une boîte. Non, il est véritablement puissant. Ou alors, je regarde à la grâce de Dieu, qui s'est humilié jusqu'à la mort. Alors ma louange va vers lui. Les mots sortent naturellement de ma bouche. Des mots qui viennent véritablement du plus profond de mon cœur. Et des mots sincères. La sincérité est importante. Lorsqu'on s'approche de Dieu, nous vivons... Alors, attendez. Lorsqu'on s'approche de Dieu... Excusez-moi, je comprends. La sincérité est importante lorsqu'on s'approche de Dieu. Nous vivons dans un monde où j'ai l'impression que la sincérité a disparu. Ou peut-être qu'elle n'a jamais existé sur Terre. Jésus a repris sévèrement les religieux qui faisaient de belles prières, qui se montraient à tous lorsqu'ils jeûnaient. Chers frères et sœurs, la sincérité, c'est important. C'est une nécessité, il ne faut pas d'entourloupe, soyons vrais dans la vérité pour notre Dieu. C'est ce que nous dit ce verset de Jean 4, 24, on le reprend régulièrement, mais on n'insiste pas souvent sur la deuxième partie de ce verset. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Souvent, on s'arrête à la première partie, l'adore en esprit. C'est un truc qui attire notre attention. Mais il y a la suite. Et en vérité. Soyons attachés à la vérité dans nos moments de prière. Ce n'est pas un moment de manipulation ou je ne sais pas trop quoi. C'est un moment de vérité. Il y a aussi également, on l'a chanté ce matin, c'est des fois, il faut savoir se taire dans nos moments de prière. Savoir se taire pour écouter Dieu. Quand on parle tout le temps, on n'écoute pas. Il faut pouvoir échanger. Il faut savoir se taire. Donc la passion, le respect, voire la crainte, la reconnaissance de la position de Dieu, venir avec assurance, la louange, la sincérité et la vérité, et le silence. Voici quelques éléments clés des moments de prière. Quelques éléments, je pense que beaucoup les connaissent, mais c'est bon de se les remémorer. En tout cas, moi, ça m'aide. Alors nous pourrons puiser aux sources de la vie, véritablement goûter au renouvellement de notre être intérieur. Je crois que si nous sommes ici ce matin, c'est pour pouvoir vivre pleinement notre relation avec Dieu, une relation profonde. Pour illustrer ce principe, j'aimerais partager un témoignage, un court témoignage. Il y a 2 semaines, je m'inquiétais pour des problèmes au travail, la situation de l'Église, pour d'autres sujets encore. Il y avait une montagne de sujets qui me préoccupaient. Et comme je l'ai déjà mentionné, je profite du matin de mon trajet vers le travail, qui dure environ 1 heure, pour passer du temps avec Dieu. Je le loue, j'intercède, etc. Alors, malgré ma louange, j'étais inquiet. Mais sans me rendre compte, j'étais en train de chanter ce chant du Gémin, « Mon Dieu est si bon ». Et ce n'est pas un chant que j'ai l'habitude de chanter régulièrement, ou que j'ai entendu dernièrement. Donc nul doute que ce chant était inspiré et m'a conduit. Et ce chant, le refrain, dit « Dieu sait si bien, il connaît la situation et ce qui est dans notre cœur. Ce qui te semble lourd, il n'y avait pas de meilleure description de mes sentiments que la lourdeur à ce moment-là. Qui te fait mal, je ne vous cache pas, j'ai eu mal au cœur. » Et le mot « mal » est vraiment le mot qui caractérisait ce que je ressentais à ce moment. « Te trouble chaque jour. » Chaque jour, ces problèmes me préoccupaient. Ils se répétaient chaque jour, voire même la nuit. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais, tout ira bien. Et par cette dernière parole, Dieu affirme la vérité. Il connaît mes besoins, mais également les besoins au travail, les besoins à l'Église. Tous les autres sujets, il connaît les besoins de tous en tant que collectivité. Ma préoccupation du futur était grande. Mais avec Dieu, tout ira bien, il est avec nous. Nous lui appartenons, il n'y a pas de doute. Il répondra présent. Voilà, c'était un puissant encouragement dans un moment de prière. Et j'étais frappé par la précision des paroles de ce chant par rapport à la situation que je vivais. Et je me suis dit à ce moment, si au lieu de passer du temps avec Dieu, j'avais écouté la radio par exemple, je n'aurais pas goûté aux sources de la vie et au renouvellement de mon âme. Il est important de passer du temps avec Dieu. C'est là qu'on goûte véritablement au renouvellement de l'âme. Toujours pour nous encourager à prier et à entretenir notre relation avec Dieu, il y a un principe de base pour l'évangélisation. On ne peut donner que ce qu'on a reçu. Et on reçoit beaucoup dans nos moments de prière. Ça sera une aide précieuse. Voilà quelques mots que je voulais partager sur le moment de prière et j'aimerais changer de vous faire une précision sur un autre aspect de la prière qui est l'intercession. Et pour introduire le sujet de l'intercession, qui fait également partie de notre relation avec Dieu, je vous propose de s'appuyer encore sur un chant. Ce matin, je m'appuie beaucoup sur les chants et relire les paroles du chant qu'on connaît tous, qui est connu partout, qui est un chant anglais, « O Happy Day ». On va relire les paroles. Souvent, le chant, on connaît la mélodie, on connaît, voilà. Prenons le temps de relire. C'est assez encourageant. Donc, les paroles en anglais, c'est « oh, happy day, when Jesus washed, when Jesus washed, when my Jesus washed, washed my sin away. Oh, quel beau jour, quand Jésus m'a lavé, lavé de tout péché. He told me how to wash, to fight and pray. Il m'a montré à regarder, me battre et prier. » Et il y a là une reprise, « Me battre et prier. » He told me how to live rejoicing every day. Et il m'a dit comment vivre en appréciant chaque jour. Me battre et prier. Ici, il est certainement question de se battre pour la foi, de se battre contre le péché et de prier. Mais en réorganisant les mots, on arrive à se battre en priant. Il s'agit véritablement d'un combat. Et dans cette idée, on peut poursuivre et dire que lorsque nous commençons à prier, nous sommes comme un guerrier qui part au combat. Il doit être préparé. Et notre préparation est spirituelle. C'est ce que nous enseigne Éphésiens 6, 10, 18. On le connaît bien, mais on va le relire. Éphésiens 6, les versets 10 à 18. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité, ce que nous avons lu, échangé juste avant. Pas de mensonge, il faut être sincère. En guise de ceinture, enfilez la cuirasse de justice. Recherchons ce qui est juste, juste aux yeux de Dieu, et pas à nos propres yeux. Petite précision. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi. Tout est possible à celui qui croit en Dieu, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut. Notre salut est dans la foi. Il est certain. Venons avec assurance devant Dieu. Et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, dans notre relation avec Dieu, il faut lire et étudier la parole, la Bible, il faut passer du temps. Il faut consacrer du temps. C'est une obligation. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. C'est important de se rappeler que nous devons prier les uns pour les autres, nous soutenir. Nous passons tous par des hauts débats. C'est pour ça qu'on a besoin de prier les uns pour les autres. Voici les armes et l'état d'esprit du guerrier. La question ce matin, êtes-vous un guerrier ? Il y a quelques années, lors d'un moment d'intercession, la personne qui dirigeait le moment de prière a pris la parole et il a dit quelque chose qui m'a beaucoup aidé. C'était simple. Avez-vous déjà vu un guerrier assis sur le champ de bataille et gagné ? Est-ce que vous avez déjà vu ça ? Moi, j'ai dû répondre non. Non, il est debout, hein. Bien sûr, il s'agit d'un symbole. Mais je sais personnellement que je suis plus combattant lorsque je suis debout. L'important dans ces moments, que l'on soit assis, à genoux, allongé, debout, c'est d'être offensif, voire même d'être violent dans notre attitude contre l'ennemi. C'est certainement pourquoi Jésus nous a dit que le royaume des cieux appartient aux violents et que l'on s'en empare avec violence. Voici les quelques mots que je voulais partager avec vous concernant l'intercession. Et faire une transition et pour aller vers un autre aspect de la prière, il me paraissait impossible de ne pas relire le Notre Père et de creuser un petit peu, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, on le connaît par cœur, et comme on le connaît par cœur, eh bien on ne réfléchit plus au contenu. Enfin, en tout cas, moi c'est comme ça, certainement pas vous, mais moi je suis comme ça. Donc dans Matthieu 6, le verset 9, Jésus enseigne la prière. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et je lis les deux versets suivants, mais qui ne font pas partie de la prière. C'est un enseignement de Jésus. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Je vous propose de reprendre verset par verset et de comprendre un petit peu. Je ne vais pas aller très loin, je n'ai pas creusé très loin, mais juste de commenter quelques versets parce que justement, comme moi je le connaissais par cœur, je ne vais pas loin dans l'analyse. Et donc là, j'ai voulu aller un petit peu plus loin. Donc le début, le verset 9. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. On se rappelle à qui on s'adresse. On doit le respecter, le craindre. La sainteté est liée au respect des commandements et donc de la personne qui a institué ces commandements et qui les a établis. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Montrer l'importance que l'on porte au royaume de Dieu et donc à la passion de voir son nom élevé et son action se répandre sur la terre. C'est important de le montrer. Et de le dire. Le verset 11, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » On rappelle à Dieu que l'on compte sur lui pour répondre à nos besoins. On ne cherche pas par soi-même, bien sûr on travaille, mais on sait qu'on est dépendant de Dieu. Ici, il est dit quotidien, chaque jour, jour après jour. Nous avons besoin de lui. Il ne faut pas avoir peur de lui rappeler qu'on a besoin de lui chaque jour, à chaque instant. Le verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La repentance fait partie de nos moments de prière. Et comme on est pardonné, il faut pardonner à ceux qui nous ont offensés. Ce principe est repris un peu plus tard. Il est effectivement plus difficile de pardonner quelqu'un que de demander pardon à Dieu. C'est plus facile de demander pardon à Dieu. Mais pardonner quelqu'un, pour nous, à l'intérieur, c'est pas évident. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Jusqu'il y a peu de temps, je décomposais ce verset en deux parties. Première partie, ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et après, je faisais l'autre partie. car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » C'est comme ça que j'ai interprété, c'était, voilà. Et je pense que je me suis trompé, il ne faut pas les couper, ce verset. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous de mal. Alors, on démontre à Dieu, au travers de cette première partie, notre intention et notre volonté. Et on reconnaît également notre état de faiblesse vis-à-vis du péché et de Satan. Et la suite de la phrase est véritablement un moment de violence et de proclamation. Je ne veux pas céder. Je m'appuie sur toi pour ne pas céder. Et tu dois agir. C'est ce que nous dit ce verset. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. On ne veut pas pécher, on ne veut pas laisser Satan agir et gagner. Car c'est à lui qu'appartiennent la puissance, la gloire. On veut que avoir la victoire pour que la puissance de notre Dieu soit révélée. On veut gagner, c'est pour ça, c'est pour lui, et ce n'est qu'un seul verset. Et là, ce qu'on dit à Dieu, c'est « Tu n'as pas le choix, tu dois me délivrer à cause de ton nom, à cause de ta sainteté. » Voilà ce que dit ce verset. Il impose à Dieu de respecter notre statut d'enfant de Dieu, sauvé, voulant voir le royaume de Dieu grandir et voulant voir sa propre sanctification grandir à la gloire de Dieu. Jésus nous a déjà enseigné la violence au travers de l'enseignement sur la parole. Ne permets pas à Satan d'avoir le dessus à cause de ton nom. Ne permets pas au péché d'avoir le dessus à cause de ton nom, de ta sainteté et de ton royaume. En tout cas, c'est comme ça que moi je le comprends, ce verset, après avoir creusé un petit peu plus. Et donc les deux versets qui suivent, qui ne font pas partie du Notre Père, mais qui sont la répétition du lien entre le fait de pardonner à Dieu et de devoir pardonner à ceux qui nous ont offensés. Donc les versets 14 et 15, on les a déjà lus, mais je vais les relire parce que des fois ça a du mal à rentrer dans nos têtes. Enfin, moi je suis comme ça. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. C'est simple, c'est très direct. Et j'aimerais apporter un dernier élément avant de passer à la conclusion. Certains, dans le milieu évangélique, pensent que tout doit démarrer dans la louange et l'adoration. Et c'est certainement vrai. Car notre Dieu est digne de louange et d'adoration. Il a la position, et on le reconnaît dans sa position de Dieu tout-puissant. Et donc le canal de communication, est ouvert. La louange aide à entrer dans la présence de Dieu. Alors, la louange aide à ouvrir cette relation avec Dieu, ce canal. N'hésitons pas à chanter, à reprendre des chants, à écouter de la musique, et voilà, être actif en tout cas. Et en conclusion, je voudrais prendre l'illustration d'un pauvre voulant devenir riche, mais qui ne veut pas travailler. Il n'arrive pas à son but, il restera pauvre. Pour devenir riche spirituellement, nous devons travailler dur dans la prière, investir notre temps. Et cet investissement est bien meilleur que tout investissement dans les biens de ce monde. Ni la rouille ou la teigne ne peuvent le toucher. Cet investissement est pour l'éternité. Il paraît que nous, les Français, nous sommes les champions de l'investissement dans la pierre, l'immobilier. On aime acheter de l'immobilier, c'est notre truc, voilà, c'est comme ça. Je crois que c'est parce que nous pensons qu'il va durer longtemps, voire éternellement. C'est une aspiration intérieure que nous avons. Savez-vous que les maisons d'aujourd'hui sont conçues pour durer 100 ans ? Voilà, c'est ils font le dimensionnement des parpaings et tout, c'est pour durer 100 ans. Ça durera certainement plus, mais en tout cas, ils font leur dimensionnement comme ça, quoi. Donc même ce que nous pensons au travers de l'immobilier comme étant une valeur sûre, la rouille et la teigne finissent par l'atteindre. Et donc ce que je voulais vous proposer ce matin, c'est d'assouvir cette soif d'éternité par un investissement long terme pour l'éternité, la prière, passer du temps avec Dieu. Voilà, je voulais vous encourager dans ce sens-là. Voilà.